Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est une lumière sur notre sentier, qui est notre boussole pour nous diriger dans ce monde perdu, qui nous permet de nous diriger aussi dans nos vies qui sont souvent un peu perdues également. Et nous te remercions, notre Dieu, de ce que tu es avec nous, ce matin, au milieu de nous, par ton Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint que nous invoquons ce matin pour être conduit dans ta parole, pour être conduit dans les réflexions que nous allons faire, dans nos pensées, dans notre intelligence, pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu et en être fortifiés. Tout ça dans le but que tu sois honoré et glorifié au milieu de nous et que nous puissions être, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, petit à petit être rendus semblables à notre Seigneur Jésus-Christ que nous attendons. Oui, Seigneur, révèle-toi à nous ce matin et aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à voir ce que nous avons à voir. Mets la lumière dans nos cœurs, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. On relit depuis le début du 9e chapitre des Hébreux. Et on va lire jusqu'au verset 22. Hébreux 9, premier verset. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous ». Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dimanche dernier, nous avons vu la première partie, la première moitié de ce neuvième chapitre. Et vous vous rappelez probablement que l'auteur de notre épître a commencé de tirer des parallèles entre le tabernacle de la première alliance, qui était le sanctuaire terrestre du peuple d'Israël pendant la traversée du désert, donc entre le sanctuaire de la première alliance et celui de la nouvelle alliance. Et celui-là, ce deuxième sanctuaire, qui est le vrai, en fait, est déjà le nôtre. Nous avons notre entrée dans le sanctuaire céleste si nous avons placé toute notre confiance en Jésus-Christ pour être réconciliés avec Dieu et obtenir ainsi la vie éternelle dans sa présence. Pourquoi, les enfants, avons-nous besoin d'être réconciliés avec Dieu ?
Parce qu'on a péché.
Et comme on a péché, parce que la réconciliation, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand a-t-on besoin de se réconcilier ? S'il y a deux personnes, elles sont dans quel état, les deux personnes, pour qu'elles aient besoin de se réconcilier ? Elles sont fâchées, elles sont ennemies, il y a un problème entre elles. Et à cause du péché, on a un problème avec Dieu. Et Dieu a un problème avec nous. Et donc, quand deux ennemis veulent redevenir amis, il faut qu'ils se réconcilient. Pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, comment se passe la réconciliation avec Dieu ? Comment se passe notre réconciliation avec Dieu ? On lui apporte une friandise avec Jésus. C'est par le Seigneur Jésus seul que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. C'est lui, en mourant sur la croix pour nos péchés, c'est lui qui nous a obtenu la réconciliation. Si nous croyons de tout notre cœur dans ce sacrifice du Fils de Dieu, en reconnaissant nos péchés et en nous en détournant, en nous confiant dans le Seigneur, alors nous sommes assurés de l'amitié de Dieu, de son amour, de sa bonté, de sa protection qui repose sur nous. Donc en tirant des parallèles entre les deux sanctuaires, l'auteur souhaite bien évidemment nous faire la démonstration de l'infinie supériorité ou de la perfection du deuxième sanctuaire, du deuxième tabernacle, de celui qui est au ciel et non pas sur la terre. Ce matin, nous allons commencer par revenir sur cette première partie du 9e chapitre, parce qu'on y trouve des choses vraiment importantes pour notre intelligence des choses de Dieu, et donc par conséquent aussi pour l'édification de notre foi, notre affermissement dans la foi. Et je vous demanderai d'ores et déjà de me pardonner, parce que vous aurez sans doute l'impression d'entendre un peu les mêmes choses à mesure que nous avançons. Alors j'aime autant vous le dire tout de suite, ce ne sera pas qu'une impression, mais il se trouve que les choses difficiles à comprendre sont mieux apprises si on les regarde sous différents angles et en parlant avec différents mots. Allons-y. Je l'avais relevé la dernière fois. Nous lisions dans notre texte au verset 8 que c'était bien le Saint-Esprit qui employait le culte de l'Ancienne Alliance, avec en particulier ce tabernacle composé de deux parties, le lieu saint et le lieu très saint, séparés tous les deux par un voile épais. C'était donc le Saint-Esprit qui voulait montrer qu'avant la venue du Christ sur la terre, si on pouvait déjà rendre un culte à Dieu, toutefois, la communion avec lui, la vie dans sa présence, n'était pas possible. Mais parce que le souverain sacrificateur, et lui seul, pouvait pénétrer une fois par année dans le lieu très saint, qui symbolisait le lieu de la présence sainte de Dieu, on pourrait dire aussi qui symbolisait le sanctuaire céleste, et bien par cette entrée annuelle du souverain sacrificateur dans le lieu très saint, le Saint-Esprit montrait qu'un jour la route serait ouverte et que le peuple de Dieu, tous ses rachetés, nous, si nous sommes rachetés, nous pourrions vivre dans sa présence et y vivre pour toujours, puisque Jésus, lui, notre précurseur, notre représentant, y est entré, lui, pour toujours, dans le sanctuaire céleste. Et en fait, jusque-là, jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre vrai souverain sacrificateur, notre vrai grand prêtre, jusqu'à ce qu'il ait inauguré pour nous la route du sanctuaire céleste, qu'il y soit allé, lui, le premier, ce qu'il a fait le jour de son ascension, et qu'il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux. Donc jusque-là, tout le culte de l'Ancienne Alliance, avec les Lévites, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les innombrables sacrifices, les holocaustes, les offrandes, et encore, comme le dit le verset 10, les aliments, les boissons et les diverses ablutions. Ablutions, c'est des choses qu'on met dans du liquide, dans du vin, c'est les lavements, etc. Tout ça consistait seulement en des ordonnances charnelles, c'est-à-dire des choses qui n'étaient que terrestres, bassement terrestres, que Dieu avait imposées. Certes, c'était Dieu qui avait voulu ça, mais seulement jusqu'à ce que vienne une époque de réformation. Cette époque, vous le savez, est venue quand ? Par quoi ? Par Jésus. Tu as dit quoi ? La mort de Jésus. Et cette époque est venue avec l'Évangile, en fait. Avec le Seigneur Jésus qui a traversé le voile, c'est la mort en effet, qui a traversé le voile une fois pour toutes avec son propre sang. Le sang d'un sacrifice parfait qui nous a obtenu le pardon de Dieu et la vie éternelle. C'est le sang de la nouvelle alliance. On va y revenir tout à l'heure. Et donc depuis bientôt 2000 ans, le Christ n'est jamais ressorti du sanctuaire céleste. Le souverain sacrificateur de l'Ancienne Alliance, il entrait dans le lieu très saint, puis il ressortait le même jour. Puis après, il n'y retournait pas pendant une année. Mais le Christ, lui, il n'est jamais ressorti du sanctuaire céleste. Il est toujours resté à la droite de Dieu, comme le représentant de tous ceux qu'il s'est acquis, de tous ceux qu'il a rachetés par son sang. Est-ce que Jésus ressortira un jour du sanctuaire céleste? Question. Oui. Ah ah. Pourquoi faire? Voilà, c'est ça. Tout à fait. Il reviendra sur la terre pour juger le monde et pour prendre son Église avec lui, tous ses enfants. Donc, il va quitter un jour le sanctuaire céleste, mais pas pour longtemps. Ce jour-là sera un jour de gloire pour l'Église, pour tous les véritables chrétiens, pas ceux d'étiquette, ceux des chrétiens de cœur. Un jour de gloire pour les véritables enfants de Dieu, pour ceux qui ne se confient pas dans les hommes, qui ne cherchent pas la gloire qui vient des hommes, mais celle qui vient de Dieu. L'approbation qui vient de Dieu, quand Dieu approuve ce que nous faisons, ce que nous sommes. En revanche, pour tous ceux qui n'auront pas fléchi le genou devant lui, qui auront tenu pour rien la grâce et l'amour de Dieu, pour tous ceux qui auront refusé d'entendre son appel à se repentir et à s'approcher humblement et avec confiance du Fils de Dieu, pour tout cela, et parce que Dieu est absolument juste, pour tout cela, ce ne sera pas un jour de gloire, mais un jour de malheur, un jour terrible, le jour de la colère. Voyons encore une fois ce que dit le verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le tabernacle subsistait. Et l'auteur ajoute, verset 9, que c'est un symbole pour le temps présent. Bien sûr, le temps présent, à l'époque où cette lettre a été écrite, ce temps présent, c'était il y a 2000 ans. Mais alors pour nous, chrétiens du 21e siècle, pour notre temps présent à nous, quel est le symbole particulier auquel le Saint-Esprit veut nous rendre sensible, attentif? La mission du Saint-Esprit, Saint-Esprit qui nous révèle lui-même la sainteté de Dieu, qui est symbolisée dans le tabernacle terrestre par le lieu très saint. Sainteté de Dieu symbolisée dans le tabernacle terrestre par le lieu très saint. Donc sa mission, la mission du Saint-Esprit, est ici de nous faire comprendre que si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, alors nous devons nous examiner nous-mêmes. Pourquoi? Pour voir dans quel endroit nous nous tenons pour rendre notre culte à Dieu. Notre culte personnel ou communautaire, comme ce matin. Et nous poser la question: sommes-nous bien entrés avec le Christ dans le lieu très saint? Ou sommes-nous au contraire restés dans le lieu saint, en deçà du voile? En d'autres termes, quel genre de relation vivons-nous avec le Seigneur? Il n'y a que le Saint-Esprit, chers amis, chers frères et sœurs, qui puisse nous donner cette conviction intime de vivre dans la proximité de Dieu et de le connaître comme un Père rempli d'amour pour ses enfants. Et c'est pourquoi je crains, attention, ce n'est pas une critique, je ne vise personne, ce n'est pas une critique gratuite que je suis en train de faire, hein. Écoutez bien, bon, je vous dirai après comment j'ai vécu ça moi. Et c'est pourquoi je crains que si nous vivons notre culte de manière formaliste, si nous chantons nos cantiques sans réfléchir à ce que nous disons, sans y mettre notre cœur, que nous répétons dimanche après dimanche les mêmes prières. Et si au moment de la Sainte Cène, nous ne cherchons pas de tout notre cœur à recevoir ce que le Seigneur veut nous donner, oui, je crains qu'une telle attitude soit révélatrice d'un culte vécu, non pas dans le lieu très saint, mais seulement dans le lieu saint. C'est-à-dire, pas très loin de Dieu, mais pas proche non plus. Mes chers frères et sœurs, si vous êtes enfants de Dieu, vous êtes alors en Christ. Colossiens 3:3 affirme que si vous êtes chrétien, vous êtes donc ressuscité avec le Christ. Et alors votre vie, elle est où ? Cachée, ouais, avec le Christ en Dieu. En Christ, par le Christ, nous sommes déjà dans les lieux célestes. Et cette idée devrait nous remplir de joie. Oui. Une espérance vivante, pleine d'assurance, une des nombreuses promesses de l'Écriture, mais ici une des plus glorieuses. Non, l'accomplissement de notre vie telle que Dieu nous la destine n'est pas pour ici-bas, c'est-à-dire tant que nous sommes dans la chair. Ma question alors, le Saint-Esprit vous a-t-il révélé ces choses ? Ou bien votre espérance se limite-t-elle à rester dans le lieu saint sans jamais vraiment connaître Dieu et jouir de sa présence ? Alors voilà, si vous pensez être toujours dans le lieu saint quand vous rendez votre culte à Dieu, ou si vous avez l'impression, si nous avons l'impression, je m'inclus, d'avoir vraiment accès à Dieu, mais pourtant de régulièrement retourner dans le lieu saint, alors implorons le Seigneur. Demandons que l'Esprit Saint nous introduise dans la réalité du lieu très saint, de cette présence de Dieu si bienfaisante, que nous y soyons introduits pour ne pas en sortir. J'aimerais pouvoir dire pour ne plus en sortir. Mais maintenant, si vous ne connaissez pas cette intimité avec Dieu, ou si peu, savez-vous quelle est la seule chose qui nous ferme l'entrée du lieu très saint, du sanctuaire céleste ? Oui, c'est le même problème que sous l'Ancienne Alliance. Le péché, la chair rebelle à Dieu, la désobéissance. Alors qu'en est-il de ton péché ? Jésus ne t'en a-t-il pas purifié ? Son sacrifice sur la croix est-il insuffisant pour toi ? Dieu n'a-t-il pas jeté tous tes forfaits, toutes tes fautes au fond de la mer ? S'il ne veut pas s'en souvenir, pourquoi toi tu y reviens tout le temps ? Pourquoi vis-tu comme si ta chair avait des droits sur toi, plutôt que d'aller te réfugier dans le sanctuaire de Dieu, là où est ta place avec le Seigneur Jésus ? Puissent ces quelques questions provoquer en vous ce qu'elles ont provoqué en moi hier après-midi en les relisant. C'est en les relisant, c'est pas en les écrivant, non. C'est en les relisant à la 3e ou 4e fois peut-être, en les proclamant à haute voix, comme si j'étais devant vous, comme maintenant. Des pleurs pendant plusieurs minutes, en constatant que je vis si peu ces réalités. Non, nous ne nous contentons pas de peu. Le Seigneur ne veut pas que nous restions dans une vie chrétienne médiocre, tout simplement parce que nous ne serions pas familiers du sanctuaire céleste. Oh, que par sa grâce, nous puissions y rester toujours, cachés en Christ, dans la présence de Dieu, parce qu'il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, parce qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste et nous a obtenu une rédemption éternelle. C'est-à-dire un rachat de nos vies qui a valeur éternelle. C'est pour toujours. On ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint du tabernacle terrestre sans y apporter du sang. Exclu. Et Jésus non plus n'a pas pu entrer dans le sanctuaire céleste sans y apporter son propre sang. J'imagine que si notre Seigneur était entré seulement pour lui-même dans le sanctuaire céleste, je veux dire, si il n'y était pas entré en tant que notre représentant, en tant que représentant de l'Église de tous les siècles, le sang n'aurait pas été nécessaire, j'imagine. Mais évidemment, une telle réflexion est saugrenue, pour ne pas dire idiote, puisque justement, ce qui a fait que Jésus est entré dans le sanctuaire céleste, c'est qu'il est d'abord venu sur la terre pour vivre au milieu de nous et avec nous et se charger de nos péchés. Et en conséquence, mourir à notre place sur la croix. La seule pour laquelle le Christ est mort, c'est nous tous qui sommes là ce matin. Et bien sûr, toute l'Église à travers le monde. La seule raison pour laquelle Jésus est entré dans le lieu très saint avec son propre sang, c'est encore nous. C'est-à-dire chacun qui se reconnaît dans la mort du Christ et dans sa résurrection. Chacun qui voit dans le sang du Christ le gage non seulement de sa réconciliation avec Dieu, mais encore de son introduction dans l'intimité de notre Père Céleste, dans le lieu très saint. Et remarquons encore une fois l'infinie efficacité du sang de Jésus. C'est que par lui, nous sommes non seulement purifiés de tout péché, c'est-à-dire en fait justifiés, nous sommes regardés comme étant, non mais vous rendez compte, comme étant aussi juste que le Seigneur Jésus. Puisque c'est de sa justice dont nous avons été revêtus. Et ça, c'est pour ainsi dire une œuvre extérieure à nous. Elle ne dépend pas de ce que nous pouvons en comprendre, la justification. Dieu nous a justifié, il a mis sa justice sur nous. Mais ce n'est pas tout. Donc non seulement par le sang de Christ nous sommes justifiés, purifiés de tous nos péchés, mais encore, dit notre texte, l'efficacité du sang de Jésus se déploie au point de purifier même notre conscience. Oui, en croyant aux promesses de Dieu et à l'efficacité extraordinaire du sang de notre Seigneur, nous obtenons une conscience pure. Et ça dépend en fait, si on peut dire, de la qualité de notre foi, de la sincérité de notre confiance dans la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit ici par l'aspersion du sang de Jésus sur nos consciences pour les purifier. Quand le souverain sacrificateur faisait l'aspersion du sang sur les objets du culte, sur le tabernacle, c'était pour tout purifier. Et Jésus le fait là, pareil pour nos consciences, qu'elles en soient purifiées. Nous obtenons alors une conscience déchargée de toute culpabilité, une sainte conscience, en somme, qui nous permet de nous approcher de Dieu avec assurance. C'est-à-dire sans aucune crainte d'être rejeté ou d'être rabroué
brûlé, mais au contraire, avec l'assurance d'être accueilli à bras ouverts.
Je le redis une fois encore, mais cette fois en vous demandant de penser à ce que vous faites quand vous prenez la scène. Le sang précieux de Christ nous purifie non seulement du péché, il purifie aussi notre conscience, en sorte que les œuvres mortes, c'est-à-dire les œuvres de la chair, ne nous condamnent plus, ni n'accaparent notre esprit. Parce que le sang de Christ nous habite, en fait. C'est-à-dire sa vie. Il inonde notre cœur. Écoutons l'évangéliste Matthieu. Jésus prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alors, on l'a dit dans nos études consacrées à la scène, ce n'est pas du sang que nous buvons dans la coupe, c'est bien du vin. Mais spirituellement, nous buvons bien à la coupe du Seigneur. Le Saint-Esprit, lorsque nous partageons la coupe, accomplit avec le sang de Christ l'aspersion de nos cœurs, en sorte que nous soyons purs devant lui. Maintenant, il y a un but à tout ça, une nécessité même. Ces choses se passent afin que nous servions le Dieu vivant. Pas nous-mêmes, pas des idoles, mais le Dieu vivant est vrai. Un but, une nécessité, c'est la raison même de la rédemption, la raison de notre rachat, par lequel Dieu a fait une démonstration de son amour infini pour tous ses enfants. C'est qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur, son Fils bien-aimé, pour nous sauver. Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 10 maintenant, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu en vous rappelant de l'efficacité du sang de Jésus-Christ, son efficacité sur vous, en vous, dans tout votre être. Vous croyez qu'on prend pourquoi la scène? Par la vertu du Saint-Esprit, il nous a rendus capables de le servir dans la sainteté et dans la joie. Dans l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs étaient eux aussi mis à part par l'aspersion du sang. Et oui, c'était dans le but de servir Dieu et d'être au service de son peuple. Pensez-vous qu'il puisse en être différemment de nous? Oui, peut-être. Mais seulement en ce que notre sainteté devrait être encore plus grande que celle du souverain sacrificateur qui officiait dans le tabernacle, puisque maintenant le Saint-Esprit habite en nous. Et c'est donc lui qui accomplit ces choses, le Saint-Esprit, qui accomplit ces choses en produisant en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2:13.
Voilà, nous allons maintenant passer à la deuxième partie de ce 9e chapitre. Et nous sommes donc au verset 15. Et nous allons nous arrêter sur les versets 15 à 22. Il est très ordinaire aujourd'hui de parler de mots-clés. Eh bien ici, dans ce passage, il y en a deux. Deux mots-clés. Testament et héritage. Et je vous signale juste en passant que lorsque nous lisons le mot « alliance », c'est en fait le même mot que « testament ». En grec, c'est le même mot. Alors voilà ce que nous dit l'auteur de notre épître dans ce passage. Bien que notre Seigneur Jésus-Christ soit le médiateur d'une alliance nouvelle, sa mort sur la croix est aussi valable pour les hommes de Dieu, les hommes que Dieu avait appelés à lui déjà sous la première alliance. Le Saint-Esprit nous dit que la mort de Jésus est intervenue pour que ceux qui ont été appelés dans cette première alliance, tous ceux de l'Ancien Testament, on pourrait dire, qu'ils reçoivent eux aussi l'héritage éternel qui leur a été promis. Et cet héritage qui a été promis aux enfants de Dieu de la première alliance, de l'ancienne alliance, c'est le même héritage que le nôtre aujourd'hui, que celui qui nous est aussi destiné. On le voit très bien un peu plus loin, au 11e chapitre. Vous savez, c'est le long chapitre des héros de la foi, des témoins de la foi, justement sous l'ancienne alliance. Et c'est au verset 13 à 16 et 39 et 40. Donc cet héritage, c'est celui que Dieu avait promis à Abraham et à sa postérité. Et pourquoi cet héritage est-il éternel? Parce que c'est ce que Dieu destinait à son peuple depuis toujours, depuis toute éternité. Parce qu'il nous faut bien comprendre qu'avec l'envoi de son fils Jésus sur la terre, Dieu n'a pas eu la pensée de quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas prévu au départ. Comme si Dieu avait dû changer ses plans en cours de route, parce que certains événements ne s'étaient pas déroulés comme prévu. Non. C'était son plan initial de se rassembler un peuple par le moyen de sa souveraine grâce. Et vous souvenez peut-être, par notre étude du livre de la Genèse et par nos prédications de l'Épître aux Romains, que cette postérité qui doit hériter des promesses, c'est qui cette postérité ? Tadam ! Personne n'a la réponse. Ah, c'est pas tout à fait exact. C'est pas faux. Mais c'est qui cette postérité qui doit hériter? C'est Jésus. C'est le Christ. Alors c'est nous, bien sûr. Mais donc c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Comme le Seigneur Jésus-Christ est en nous.
Voilà, c'est ça. C'est lui la postérité dont il est question, mais pas le Seigneur tout seul. Le Seigneur et tous ceux qui lui sont attachés par la foi. Le Seigneur et tous ceux dont il est le Sauveur. Le Seigneur et tous ceux dont il est le médiateur. Le souverain sacrificateur auprès de Dieu. Écoutons deux passages, l'un dans l'Épître aux Romains, justement, et l'autre dans l'Épître aux Galates. D'abord, Romains 4, versets 13 à 16. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi, car si les héritiers le sont par la loi est vaine, et la promesse est annulée, car la loi produit la colère. Et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, et là il s'agit justement des croyants de l'ancienne alliance, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Et puis dans Galates 3, deux passages, d'abord les versets 16 à 18. « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule « et à ta descendance », c'est-à-dire à Christ. Voilà ce que je veux dire, continue Paul. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement, il s'agit donc de l'alliance faite avec Abraham, ne peut être annulé, ne peut pas être annulé. Et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Et puis pour finir un peu plus loin, les versets 24 à 29, toujours dans Galates 3, ainsi, la loi a été comme un précepteur ou un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur de la loi. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. C'est du revêtement de sa justice dont nous parlions tout à l'heure. On peut encore ajouter sa sainteté, ses perfections, son amour, sa patience et bien d'autres choses encore. Mais Paul continue, verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Quel texte glorieux, mes amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Le ciel n'est-il pas ouvert devant vos yeux? En entendant ces paroles, il y a quelque chose, ou y a-t-il quelque chose qui puisse avoir plus de valeur à votre cœur que le Fils de Dieu? Tout ce qui a tellement d'importance à vos yeux dans votre vie terrestre, tout ce que pour rien au monde vous voudriez lâcher, ce qui vous semble impossible d'abandonner, tellement vous y êtes attaché, tout ça ne fait-il pas bien pâle figure quand on le compare au Seigneur Jésus-Christ, à ce qu'il a fait pour tous ceux qui l'aiment? Celui dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux disait au début du premier chapitre, le Fils est le reflet, ou encore mieux, le rayonnement de la gloire de Dieu. Oui, c'est par le Christ, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait pour nous, que la gloire de Dieu rayonne, nous illumine de toute sa lumière par le Seigneur Jésus-Christ. Deux mots-clés, testament et héritage. En fait, dans le grec, donc les mots alliance et testament sont identiques, comme je l'ai dit. Et donc, quand notre texte parle d'alliance, il nous faut forcément envisager la question d'un héritage. De quelque chose qui nous sera donné par Dieu. Bien sûr, sous certaines conditions que nous avions déjà lues dans les chapitres précédents. Par exemple, ne pas endurcir son cœur quand on entend la voix de Dieu, chapitres 3 et 4. Retenir fermement. Fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement, troisième chapitre toujours,
Et puis encore, cette parole au chapitre 6, versets 10 à 12,
« Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, aux autres chrétiens. Nous désirons,
continue l'auteur de l'épître, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses.
Comment sommes-nous assurés d'être les héritiers des promesses de Dieu, d'en être co-héritiers avec le Christ? Par une foi,
par la foi, hein, par une foi nécessairement obéissante et persévérante,
en mettant toute notre confiance en Jésus-Christ, en comptant sur le Saint-Esprit pour nous garder fidèles à Dieu en toutes choses. Testament et héritage, c'est exactement comme dans notre société. Si quelqu'un écrit un testament, c'est pour régler les questions de son héritage. Qui va hériter et de quoi? Mais à quel moment un testament est-il applicable?
Vous savez que votre oncle d'Amérique a fait un magnifique testament en votre faveur. Des magnifiques maisons à Savièse. Un compte en banque. Bref.
Ben voilà.
Vous savez que le testament est fait, mais ben, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, pourquoi? Parce que tant que votre oncle d'Amérique vit, ben, il ne se passe rien. Le testament n'est pas valable tant que celui qui l'a écrit, tant que le testateur vit. Donc, les volontés du testateur, de celui qui a écrit le testament, sont exécutées uniquement à sa mort, quand le testateur meurt et pas avant. Quant au verset 16, il est écrit que là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. De quoi et de qui est-il fait référence? Eh bien de quoi? De l'alliance de Dieu, c'est-à-dire des bénédictions promises à ceux qui respectent les clauses de l'alliance. Et ces bénédictions correspondent justement à l'héritage qui nous attend et dont nous pouvons déjà entrer en possession par la foi. Puisque notre héritage est dans le ciel et que nous n'y sommes pas encore corporellement, mais seulement spirituellement, c'est-à-dire par l'Esprit Saint et donc par la foi, eh bien ça veut dire que nous sommes déjà en Christ, on l'a déjà dit aussi, assis dans les lieux célestes. Nous ne pourrions pas aujourd'hui être plus proches de Dieu que ça. Voilà le testament. Et je demandais à propos du testateur de qui il était fait référence. Qui est l'auteur de l'alliance? Ou bien, qui est l'auteur du testament? C'est Dieu, n'est-ce pas? Mais qui est mort pour que les dispositions testamentaires puissent être exécutées? C'est le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Mais justement, comme c'est lui qui introduit les dispositions de la nouvelle alliance, qu'on pourrait appeler aussi les nouvelles dispositions de l'alliance de Dieu. C'est donc bien Dieu lui-même dans la personne du Fils. C'est lui qui, par sa mort, rend exécutoire les dispositions testamentaires. Il y a des choses que nous avons certainement un peu de peine à comprendre, n'est-ce pas? Mais en tout cas, nous voyons au travers de ce texte de ce matin que le sang joue une énorme importance dans l'alliance de Dieu, la première
comme la deuxième, puisque la première également, dit le verset 18, a été inaugurée par du sang, avec du sang. Le sang des veaux et des boucs, qui était une image de ce seul sang qui pourrait nous donner la paix avec Dieu. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ma prière est que les paroles que nous avons entendues ce matin soient pour nous un encouragement à rechercher, et ça c'est Gabriel l'a aussi dit tout à l'heure dans l'introduction, à rechercher ce qui nous manque pour vivre dans une relation plus intime, plus dépendante du Seigneur. Vivre déjà par la foi dans le Saint des Saints, dans le sanctuaire céleste, en délaissant nos idoles terrestres. Amen.